CFM.
CFM.
En direct de la place nationale. 101.2.
L'esprit rock. Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Orabastins. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on déguste spécial, fête de Noël, puisque nous sommes, comme chaque année, j'ai envie de dire presque, sur le marché des faiseurs singuliers à Montauban, place nationale, et en direct. En direct, avec du monde autour. Donc... Non, mais il n'y a pas de problème. Et c'est aujourd'hui, effectivement, la fin du monde, donc c'est normalement la dernière émission du monde.
C'est la dernière.
Avec Pascal Olivier. Bonjour, Pascal.
Salut.
Ça va ?
Ça va, impeccable. Hein ? C'est la dernière.
Bon, Christophe est là également. Salut.
Oui,
ça va ?
Maison.
Il va arriver. Georges est là aussi.
Il est présent aussi.
Bon, alors tout va bien. Et nous accueillons au passage Juan Kervin, Dumas des Anges et Nathalie Patard du domaine du Biarnès.
Bonjour.
Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes les premiers invités de cette émission. On s'est dit, tiens, on va mettre le vin au début, comme ça, ils nous laisseront les bouteilles.
Comme ça, on sera bourré rapidement et on pourra raconter n'importe quoi.
Oui,
ce sera de notre faute.
On n'a même pas besoin de ça pour raconter n'importe quoi. Nous recevrons également dans cette émission Magalis Vobovny de la ferme Pouletou de l'Abégeau. Elle nous fera déguster quelques foie gras ou fritons de canard. Pourquoi j'ai dit ou et fritons de canard ?
C'est pas son ou lumière.
Sabine Nérière du verger de Touticant à Dunes.
Touticant,
est en train de nous préparer des petites tartines de confiture d'ail et elle nous fera goûter un sirop de basilic. Tu m'en diras des nouvelles. Il y aura également avec nous Jean-Claude Guéral de la ferme de Casalous, spécialisé dans le foie gras. Et donc, devine ce qu'il va nous amener. Ben voilà, du foie gras.
On ne sait pas.
Ah bon. Séverine Boyer du Thé Divin, elle, nous fera déguster ses gâteaux et ses pâtisseries. Les cannelés d'olivier sont succulents. On en mange depuis le début de la semaine. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je dois en être à peu près à 256.
Avec du jus de raisin à côté ?
Et avec le jus de raisin du domaine de Biarnès.
Bon, c'était charmant, à tout à l'heure.
Bon, c'est encore un mauvais moment à passer avec qu'est-ce qu'on déguste, ça, j'ai l'impression.
Et puis, Jackie Courmont nous fera descendre tout ça pour
avec de la Ocale.
Avec de la bière Ocale. On est pas mal ?
Ouais.
Ça va, Nathalie ?
Oui, merci.
Ça va, Juan ?
Très bien.
Christophe, tout va bien ? Mais non, il n'a pas de micro toujours.
Il n'a pas un micro qui marche.
Donne-moi ton micro, fais voir. Donne-moi ton micro,
celui-là
regarde.
Il marche pas non plus. Hein.
Celui-là, quoi, Nathalie Patard n'a pas de micro
mais
qui
si.
Marche. Fais 1-2-1-2.
1-2.
Ah, mais si.
Oh, il marche pas mon micro, il marche pas mon micro. Je veux un micro qui marche, je veux un micro qui marche. Je veux qu'est-ce qu'on déguste, je veux un micro qui marche.
Enfin, tout va bien. Christophe ?
Oui, ça y est, je suis là, bien présent.
Bon, alors ce que je vous propose...
C'est Mister Georges.
J'ai pas dit...
Non, il marche bien.
Ce que je vous propose, c'est qu'on remplisse les verres et qu'on démarre cette émission. C'est qu'est-ce qu'on déguste ? Ah oui, non, en sec alors.
En sec,
en sec.
Et non, c'était sur le sapin.
Et si tu dansais toute nue, mon amour? Et si tu dansais toute la nuit jusqu'au jour? Tes petites fesses blanches. Tes petites fesses blanches. Et si tu ôtais ce petit bout de tissu, juste me régaler de ton joli petit cul. Je n'ai pas les ailes blanches. Je n'ai pas les ailes blanches. Je sais ce que je ferais si l'on m'annonçait la fin du monde pour dans 10 minutes. Je sais ce que je ferais si l'on m'annonçait la fin du monde pour dans 10 minutes. Peut-être sais-tu déjà pourquoi je te rôde autour. Quelque chose plus que tout me fait envie, mon amour. Tes petites fesses blanches. blanches, tes petites fesses blanches. Ta langue est une danseuse qui se déhanche sur tes lèvres. Je voudrais d'abord la voir tourner dans ma bouche et je crève de tes petites pêches blanches. Tes petites pêches blanches. Je sais ce que je ferais si l'on m'annonçait la fin du monde pour dans 10 minutes. Je sais ce que je ferais si l'on m'annonçait la fin du monde pour dans 10 minutes. La lune, juste pour moi, découpe ton corps dans la nuit. Alors, déchirant la pénombre, ton petit cul blanc me sourit. Qui viendra dire après ça que le bon Dieu n'existe pas?
Je sais ce que allez, un petit clin d'œil à cette fin du monde qui était annoncée aujourd'hui avec Kali qui avait un beau programme. Moi, j'aurais le même, je pense. Très, très beau programme de Kali.
Voilà, c'est la fin du monde dans Qu'est-ce qu'on déguste ? Les marchés de Noël, c'est quand même pas une tradition très dans le sud. Hein. Ça vient de là-haut, ça vient de chez toi, Juan, de la Belgique.
Oui, hein, d'Alsace aussi.
D'Alsace.
Les pays germaniques aussi.
C'est chez toi aussi, Nathalie, d'ailleurs, parce que tu es belge aussi, toi, une fois.
Non ? Ben oui.
C'est ça,
voilà.
C'est un peu une invasion. Et donc, en fait, ça vous manquait, donc vous avez dit, tu
vous
va faire.
Vous êtes venu en France pour des raisons fiscales ?
Non, par.
Pour une fois qu'on a des Belges qui viennent se réfugier ici pour des raisons fiscales, ça contrebalance l'exil de certains.
J'ai lu
moralement, oui.
J'ai lu dans la dépêche d'aujourd'hui qu'au Mas des Anges, on faisait 75 000 bouteilles.
Eh oui. Chose qu'il ne pouvait pas faire en Belgique. En Belgique, il faisait ses 7 500 bouteilles, pas une de plus. Il est arrivé, il s'est planqué à côté de Montauban. Maintenant, il en fait 75 000.
75 000 sur combien d'hectares ?
2 hectares et demi, déclaré officiel.
Alors, comment on fait pour tirer de 2 hectares et demi 75 000 bouteilles, mon cher Juan ?
On fait une erreur de dactylographie dans la dépêche.
Ah,
bravo. Là, c'est pour pas déclarer la SAU.
Non, rien du tout. La déclaration de récolte a été faite l'année dernière, contrôlée. Cette année-ci, elle vient d'être remise avant le 25 novembre. Et j'ai déclaré exactement 109 hectos.
T'as pas fait des sous-sols dans ton exploitation?
Non. Tout est visible et tout est transparent.
D'accord.
7500 bouteilles, tu les écoules sur l'année?
Sur l'année, ouais. Oui, j'ai toujours un petit volant de 600 palettes. De 600 palettes.
De 600 palettes.
Ah, tu vois. Ne t'enferre pas, là.
Non,
tu
non,
es en
600
train de
bouteilles,
couler.
Il faut faire la liaison entre la mise en bouteille et la. Et voilà. Non, c'est comme ça.
Et au domaine du Biarnès, combien de cols ?
Combien de bouteilles ?
Ouais.
À peu près 15 000 bouteilles sur l'année, puisqu'on a un domaine qui est à peu près plus ou moins, un petit peu moins que le double. Donc voilà, c'est ça.
D'accord.
On fait à peu près le double de bouteilles, 15 000 bouteilles plus ou moins sur un an.
D'accord. Et là aussi, ça part sur l'année. Parce que vos réseaux de distribution, c'est les marchés à la maison.
Oui, un peu d'exportation.
Ouais, en Belgique.
Quelques petits. Aussi en Bretagne, quelques petits magasins de village, je dirais.
D'accord. Voilà. Petit rappel, combien de temps pour d'existence pour le domaine du Biarnès ?
Pour nous, 8 ans.
8 ans.
Ça va faire 8 ans. Mais donc, c'est la reprise d'un autre.
Est-ce qu'au bout de 8 ans, on tire un petit bilan ? Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, tiens, j'ai réussi mon rêve en descendant dans le sud et en prenant un petit vignoble.
Oui, c'est la première année où on commence à respirer, parce qu'on a eu la grêle donc en 2008, ce qui nous a un peu massacré, on dira. Donc cette année, on commence à avoir une clientèle vraiment bien et oui, on est très contents cette année du résultat.
La clientèle, c'est pour vous pareil au Mas des Anges, c'est une clientèle qui s'habitue au fil du temps.
C'est une clientèle qui découvre d'abord le domaine, parce qu'on est très mal connu, peu connu et mal connu sur la ville de Montauban, alors qu'on est le vin de Montauban. Le vignoble se trouve sur la commune de Montauban. Moi, je suis ravi d'avoir de plus en plus de gens qui viennent à la cave. Mais sinon, c'est de la commercialisation à travers par des cavistes ici sur la ville de Montauban, des restaurants, des restaurateurs, et l'export aussi qui représente à peu près pour moi 30% de la production totale. Mmh.
Sur ce marché de Noël, là, c'est une bonne opération jusqu'à maintenant pour vous ?
Un bon agriculteur d'être un agriculteur toujours insatisfait. Je n'ai pas dit mécontent, insatisfait. Donc, voilà.
Ça a eu payé, mais ça ne paie plus.
À quel détu.
En même temps, il en faut hein, pour passer 75 000 bouteilles comme ça.
Ouais, ils nous racontent des carabistouilles qui donnent soif. Là.
Tu sais quoi ? Ils font aussi de la bib.
Ah, de la bib.
C'est un truc nouveau.
C'est de la bib.
Ils font de la bib au Mas des Anges.
Alors, c'est quoi de la bib?
Non, je suis vraiment désolé, je suis fâché.
Comment on fait pour faire de la bib? Dites-moi.
Voilà, ouais. Alors, la bib n'est pas une chose qui n'existe pas. Nous faisons du vrac. OK?
Du vrai bib.
Mais non, que nous commercialisons. aïe. Que nous commercialisons en bib. Alors, le bib n'a jamais été traduit en français. Parce que c'est bag in box. C'est un peu vulgaire.
D'accord.
On appelle ça le cubi, mais ce n'est pas le terme correct. Pourquoi ? Parce que le cubi est une paroi rigide, tandis que le bag-in-box, c'est la paroi, c'est le sac qui se rétracte. Voilà.
Et donc, il a un joli mot pour ce sigle bib.
C'est bonheur intérieur brut.
Ah ben voilà. On trinque au bonheur intérieur brut.
En toute modestie.
Allez, tiens.
C'est bon.
Un mot, tu veux bien nous dire un mot sur celui-là, Nathalie.
Ouais.
Je ne sais pas, tu nous le présentes parce que tu sais, les auditeurs, ils entendent qu'on boive des coups, tout ça, et puis des fois, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de boire? Donc là, on est en train de boire un blanc sec de chez Madame Patard, du domaine du Bernès.
C'est le blanc sec de l'année, puisqu'on n'en avait plus. Donc, c'est un chardonnay sauvignon, à peu près assemblage égal.
Comment ça se passe, l'assemblage? Qui c'est qui fait le justement l'assemblage, tout ça à la maison, à la famille
On fait ça, je dirais, un peu en famille. On se met à table. Donc on vinifie chaque cuve séparément. Quand c'est vinifié, on se met à table. Et on a un œnologue aussi qui nous aide dans les assemblages, bien sûr. Et on déguste ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et on essaye de voir les proportions qui nous intéressent. Quoi.
Pareil au Mas des Anges.
Même chose, moi, au Mas des Anges, le vin rouge...
On va en prendre.
Oui, parce que le Mas des Anges ne fait pas de vin blanc.
Non, le Mas des Anges ne fait que du vin rouge.
Merci.
Donc, les différents cépages sont vinifiés séparément en cuve, et puis l'élevage est fait en barrique. D'abord, des barriques de monocépage. Au bout de 2 mois d'élevage en monocépage, on fait, je dirais, on définit l'assemblage avec l'appui de l'œnologue de la Chambre d'agriculture. Et donc... on reviendra sur le rouge tout à l'heure, on en reparlera.
Oui, nous en reparlerons. Pour l'heure, on va déjà commencer par écouter un petit peu de jazz. Parce que voyez-vous, dans Qu'est-ce qu'on déguste, nous avons un spécialiste de jazz. Monsieur Georges, le spécialiste de jazz.
Alors, en ce moment, il y a beaucoup de musiciens de jazz qui ont tendance à décéder. L'un des musiciens importants du 20e siècle, c'est Dave Brubeck, le pianiste qui a modifié un petit peu la musique jazz parce qu'il a incorporé des rythmes autres que le rythme binaire et ternaire. Il a amené des 6-4, des 5-4, des 7-4. Et le morceau le plus connu, évidemment, est Take 5. Mais là, nous allons écouter un autre morceau qui a été chanté par Claude Nougaro et qui s'appelle Blue Rondo à la Turque.
Tu nous le remets au début, Aurélien ? Tu nous remets au début parce que j'adore ce morceau. J'adore ce morceau. Écoute ça. C'est beau. Tu sais, c'est quand il fait un casse de. Tu te rappelles ? Il fait un casse et il court sur les toits. Et à la fin, il meurt. C'est beau.
Il meurt pas, mais pas bon.
Son micro donne très mal. Là. On n'entend rien. Hein.
On n'entend rien. Est-ce qu'on peut faire du faux pour faire gagner ?
Thank you.
Jubile, c'est la première fois qu'on passe un si longtemps du jazz dans cette émission.
Alors c'était le morceau Blue Rondo à la Turque qui avait été immortalisé aussi par notre ami Claude Nougaro.
Alors, c'est avec Pascal Sevobovny que nous allons continuer cette petite séance de dégustation. Pascal, je te sens inspiré là sur ce coup-là. Hein? Est-ce que tu connais Pascal? Mais tu connais sa femme.
Oui.
Tu connais Magali Sevobovny qui est déjà venue par deux fois, à l'émission Qu'est-ce qu'on déguste. Donc, c'est la ferme Pouletou de l'Abéjo qui se situe où?
Qui se situe sur la route de Gaillac-Albi, à 20 km de Montauban.
La 99.
La 99, tout à fait. Mais on est une pointe du Grand Nord de la Haute-Garonne. Mais on touche, au Tarn-et-Garonne. D'ailleurs, il arrive que nos volailles finissent dans le Tarn-et-Garonne parce que c'est vraiment juste à côté.
J'ai cru qu'elles finissaient écrasées sur la route.
Non. Il y a une sorte de...
C'est une grosse production. Qu'est-ce que vous faites? Alors, combien de poulets, combien de poules? Savez-vous la différence qu'il y a entre un... entre une poule et un chapon?
Bah, une poule chapon et un chapon chapon pas.
C'est ça, il la connaissait. Bon,
c'est dit.
Bon, ça fait 50 ans que je la connais.
Ouais, bah, écoute, moi, je l'ai apprise aujourd'hui par ce monsieur là-bas et
voilà.
Elle m'a fait rire.
Bon. Donc ouais, l'exploitation, c'est une exploitation familiale avec ma femme qui a commencé il y a 4 ans l'élevage de volailles maigres traditionnelles, poulet, pintade, canette, avec de la livraison à domicile. Et moi, je l'ai rejoint, enfin, je suis agriculteur depuis longtemps, j'étais en marche laitière, et vu la conjoncture,
aïe,
on a un peu changé le fusil d'épaule, donc, comme le, tout ce qui était gavage et tout ça, j'y suis tombé déjà quand j'étais petit, dedans. Donc, aïe, on a...
Vous aviez pas envie de, si?
De gaver? Ouais, si. Ah, depuis, voilà, depuis gamin, j'ai commencé à gaver, et donc là, maintenant, on a dit, on va faire plus que du familial, on va faire un petit peu, agrandir notre panel de production. Donc, en plus de la volaille maigre, on fait aussi du canard gras sur la période hivernale.
Alors, donc, fini les vaches grasses.
Et c'est fini le temps des vaches grasses.
D'accord, maintenant on passe au canard gras.
Voilà.
Et qu'est-ce que vous avez fait des vaches?
Oh, ben, un éleveur laitier comme j'étais ne débranchait pas la perfusion de suite. Donc, j'en ai gardé quelques-unes, histoire de. Et je change un petit peu la couleur.
D'accord.
Je pars avec de la vache au braque qui a de très jolis yeux. Pas aussi jolis que ceux de ma femme, mais bon.
Bon compliment. Mais est-ce que Magali Zvopodny, elle a des cornes comme les hébras? Ah.
La spécialité au poulet tout de la Béjot, c'est quoi? C'est le foie gras, c'est les fritons, enfin c'est tout ça quoi. C'est...
Ah ben dans le canard gras, voilà, c'est l'avantage, et mes collègues qui passeront tout à l'heure vont vous le dire aussi. Dans le canard gras, on a un tas de choses de bonnes. Le foie gras, bien sûr, en particulier le friton, la rillette. Alors chacun un petit peu a ses particularités. Nous encore, on n'a pas tout notre panel parce que ça fait que 2 ans qu'on fait ça à titre professionnel. Donc effectivement, on essaie de tirer notre épingle du jeu sur le foie gras, qui apparemment n'a pas l'air mauvais, n'est-ce
il
pas?
Il est bon. Hein non, non, je le dis. Non, sans flacornerie.
Mais bon, le foie gras, en principe, c'est toujours bon.
C'est bon.
Mais oui.
Non, c'est pas toujours bon. Ça peut être trop salé, ça peut être trop poivré.
Ah là, c'est parfait. Wow. Là, il est très bon, il est goûteux.
Qu'est-ce qui fait un bon foie gras, finalement? C'est son assaisonnement.
Ah ben, le foie gras, déjà, on va
c'est,
dire
que. C'est sa texture, c'est quoi?
Je pense qu'il commence déjà un petit peu sur l'élevage du canard lui-même. Déjà, quand on commence à avoir un élevage de canard de style traditionnel, où c'est que le canard il galope, etc. Ou c'est que le canard il est gavé avec du maïs, nous en l'occurrence on gave sur paille, donc déjà ça fait tout un tas de critères qui s'ajoutent les uns aux autres.
Le maïs, c'est vous qui le produisez ou
oui, 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 tout à fait. Nous on produit nos céréales, on produit notre maïs, voilà. Merci. Donc des fois effectivement cette saison-ci on est un peu pris par le temps, bon pas par rapport aux cultures mais par rapport. On fait l'abattage, on fait la transformation, on n'est que deux. Donc...
Mais c'est un drôle de boulot. Hein.
Voilà, mais
à
bon,
deux, à deux.
Aujourd'hui, à deux. Deux. Oui, voilà.
Combien de, parce que vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure, ou alors j'ai pas écouté la réponse. Combien de poulets ou de canards, de tout ça, de bêtes à plumes?
Bon, en principe, on tourne en principe dans les 1500 volailles régulièrement sur l'exploitation. Mais voilà, mais plusieurs trucs différents. De ça part de la poule qui fait quelques œufs. Du poulet, de la pentade, de l'oie, du chapon, donc c'est très très hétérogène, donc c'est très spécifique chaque, on peut pas, ça serait facile d'avoir un seul lot de tout ça, mais là c'est plusieurs trucs différents, c'est des rations un petit peu différentes, des attentions différentes, quelques vaches aussi comme je le disais, donc voilà.
Oui pardon Pascal, oui la bouche pleine.
C'est dans le friton là.
Et alors?
Non j'allais dire... Eux, ils livrent en plus. On peut venir chercher à la ferme, mais
fait.
En plus, ils livrent.
Tout à fait. Voilà. Ouais.
Donc, voilà. On fait quoi? On commande?
Voilà. Alors, en principe, voilà, on marche comme ça. On nous commande. On a tout ce qui est volaille maigre et canard gras. On a fait un abattage par semaine. Donc, si vous nous appelez avant le mardi soir 20h, vous serez livré le vendredi ou le samedi.
Voilà. Et vous livrez où?
Alors, en gros, notre triangle de livraison, c'est, on va dire, Toulouse, Montauban, Gaillac. Voilà. Donc on vient sur Montauban, on va sur Toulouse.
Et vous faites du porte-à-porte? Vous avez un point de vue?
Non,
de chute,
on fait du porte-à-porte, on a quelques comités d'entreprise. Mmh. Voilà, souvent, un par l'autre, quoi. Des fois, c'est un particulier qui nous appelle. Et par la suite, ben, il y a une connaissance qui ouvre une porte. Pour.
Ouais, c'est le bouche à oreille. Hein. C'est la meilleure des
voilà.
C'est la meilleure
et nous,
des
aujourd'hui, c'est vrai que notre publicité s'est faite avant tout sur le bouche à oreille. Voilà, Voilà, quelqu'un qui est muté dans une autre boîte, ben il fait connaître notre produit.
Il part avec les produits. Voilà. Et c'est un porteur de bonnes paroles.
Voilà, tout à fait.
D'ailleurs, je remarque que là, ils ont tous laissé les fritons.
Et ils ont bien tort parce que, crois-moi, les fritons sont excellents. Ouais. Par contre, ce que j'aimerais avoir, et il nous reste une minute avant la fin de cette première demi-heure, c'est comment on fabrique le friton.
Le friton, c'est assez simple, on va dire, mais en fait, c'est les chutes de morceaux. Les chutes de morceaux, lorsqu'on part magret, lorsqu'on sort le magret du canard avant de le vendre, on va sortir quelques morceaux de peau, de viande, on va dire, pour le rendre esthétiquement un peu plus vendable. Quelques morceaux voilà, de graisse, de viande, voilà, des chutes de morceaux nobles qu'on va hacher et qu'on va mettre dans un grand chaudron à cuire. Donc il va se fondre, la graisse va se fondre et va cuire la viande. Donc ça se cuit un bon moment. Et après, voilà, on remet tout ça, on égoutte, on assaisonne, on remet tout ça en brocaux. Voilà. Alors certains, ces chutes de viande, les traitent différemment. Ils appellent ça le graton, donc ils le font griller beaucoup plus. Voilà. Mais à la base, le graton et le friton, c'est les mêmes morceaux.
C'est les mêmes morceaux. Voilà.
Et nous, on préfère, on a cette habitude-là.
D'accord. Et ça cuit, j'ai retenu, un peu comme Fernand Reynaud et son canon,
un certain temps. Faut que ça cuise. C'est jamais assez cuit.
Qu'est-ce qu'on déguste en direct du marché de Noël des Faiseurs Singuliers, place nationale à Montauban? Ça continue dans quelques instants.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt? Vinovali, les vignerons d'Ovali.
Qu'est-ce qu'on déguste, la suite? Comme c'est triste quand il n'y a pas le bouchon qu'on débouche juste après au moment du jingle. Non, mais c'est vrai que Georges, tu le fais très bien, comme Thierry Le Luron le faisait à l'époque quand il faisait ses sketchs en imitant Giscard d'Estaing. Ouh, c'est dur à dire ça à cette heure-ci. Mais voilà, c'est vrai que en fait, il y a des bouteilles qui se débouchent, mais elles se débouchent hors antenne. Et notamment, Nathalie Patard a débouché hors antenne un blanc doux vieilli en fût d'acacia dont elle nous dira des nouvelles dans quelques minutes tout à l'heure. Christophe, tout va bien ?
Tout va bien. Tout à l'heure, on va revenir sur le bouquin dont vous avez parlé, Gaël. Déjà, Les Ignorants. Excellente bande dessinée sur le monde du vin.
Voilà, et puis Pascal Olivier, toi tu nous as prévu quand même une recette.
Éventuellement une recette, un soufflé au chocolat noir, changer la traditionnelle bûche, etc. Et je vais peut-être vous faire aussi les boules de Noël.
Tu permets que tu feras ta recette de cuisine quand nous serons en compagnie tout à l'heure de Séverine Boyer du Thé Divin. Parce que elle est championne un peu en gâteau, pâtisserie, tout ça. Donc,
j'ai envie de voir son regard au
moment où tu donneras ta recette.
Ouais, en gâteau, alors je vais lui faire la recette des boules de Noël.
Mais non.
Boules de Noël.
Bon d'accord, enfin comme tu veux.
Comme je le sens.
Bon chocolat. Pascal, tu fais comme tu veux. Jean Kervin, Masse des Anges, Nathalie Patard, Domaine du Biarnès, toujours autour de la table et nous accueillons maintenant, je vous prie de lui dire bonjour comme il se doit, Sabine Nerrière avec un N.
Bonjour Sabine.
Bonjour.
Alors Sabine Nerrière, c'est les vergers de Toutico.
Oui.
Et c'est à Dunes.
C'est ça.
Dunes, petite ville, petit village, gros bourg du Tarn-et-Garonne. Du côté, allez, il y a un truc, Dunes c'est complètement inconnu, mais par contre vous avez Beaumont-de-Lomagne, l'ail de Beaumont ça vous parle. Et ben Dunes c'est quelque part entre Beaumont et Valence-d'Agen, par là. Dans le no man's land. De Golfech.
Ça va la faire plaisir.
Un truc, t'es irradié s'il y a un problème à Golfech de suite.
Ça s'appelle la zone vapeur.
Oui.
C'est vrai.
Non, mais
zone vapeur.
Vous n'y échappez pas non plus.
Ah bon.
Bonjour Sabine.
Alors, bonjour.
Qu'est-ce que c'est exactement le verger de Toutico?
Alors, le verger de Toutico, c'est une exploitation agricole, arboricole exactement, de plusieurs générations. Et
combien? Vous êtes la petite fille, l'arrière petite fille, l'arrière, arrière, arrière petite fille.
Arrière petite fille. Arrière petite fille,
oui. D'accord.
Oui, oui. Voilà, c'est une toute petite exploitation de 13 hectares. Donc, on a une culture variée. On a la cerise, la reine Claude, la prune dente, les poires, les pommes. Et depuis 4 ans, on essaye de se diversifier et de revoir un petit peu le métier d'agriculteur.
Et donc, du coup, vous transformez?
On transforme nos produits,
ouais.
Notre production.
Du coup, vous nous avez amené des échantillons de ce que vous proposez ici, d'ailleurs, sur le marché de Noël des faiseurs singuliers.
Oui.
Et je vais de suite prendre une de ces petites tartines.
De crème d'ail.
Ouais.
Exactement.
Alors, ail blanc ou ail rose ?
Ail blanc.
Ail blanc de donc Beaumont.
Sur le marché des produits.
Non ?
Non. Alors, l'ail blanc qu'on transforme est effectivement, n'est pas issu de notre production, c'est le seul. C'est issu de la production de notre cousine qui est à Mansonville, à côté.
Monsieur, ouais, enfin c'est Beaumont, enfin c'est là, non
c'est... Non, c'est entre Dunes et Beaumont.
Ah ouais, non, alors, t'as les mecs qui veulent avoir. T'imagines, t'as les mecs qui veulent avoir des IGP, tu vois. Donc il faut pas que ce soit ail de Beaumont, il faut que ça soit ail de Mansonville, à côté de Dunes, deuxième porte à droite.
Oui,
à peu près. À peu près.
Alors, c'est une crème d'ail au gingembre.
Il vous faut un laboratoire pour faire ça. Comment vous êtes organisé à la ferme pour oui. pouvoir faire ces transformations?
On a construit un petit laboratoire, évidemment. Évidemment. Et rien d'exceptionnel. Hein. On a besoin de bassines à confiture et c'est tout.
Mais les recettes, elles ne sont pas tombées comme ça du ciel. Vous avez...
On est très créatif. Après, on s'inspire un peu de ce qu'on peut trouver, mais on ne fait que s'inspirer. On adapte toujours pour trouver nos recettes, pour que ça... correspondent à nos attentes.
C'est de l'ail... alors, vous le faites avec de l'ail frais, de l'ail l'année
De l'ail de l'année. On le transforme exclusivement entre juillet et août. Il est trop vieux.
À cause des moustiques
aussi.
Ah, ben voilà.
Non, surtout, il ne faut pas qu'il soit germé.
Ah, oui, voilà, parce que j'allais vous dire, vous enlevez le germe, parce que...
Il n'y a pas de germe à cette époque-là. Ah.
Et donc, l'idée de rajouter du gingembre, ça...
C'est pour donner un peu de peps. C'est pas pour donner forcément le goût du gingembre. C'est pour donner un peu de peps parce que vraiment, il est affadi en étant confit, puisqu'il est confit dans l'huile d'olive. Il devient tout doux et le fait de mettre du gingembre lui donne un peu de peps.
Et pourquoi dans l'huile d'olive et pas dans la graisse de canard ou d'oie?
Parce que, je sais pas, c'était l'envie du moment. On n'est pas très bête, on n'est pas très animaux, on n'est pas très canard à la
on
maison.
On n'est pas très bête.
Donc, on est resté sur l'huile d'olive. Ça correspond davantage à notre esprit.
Donc, entièrement, enfin, tout végétarien.
Peut-être pas, non, parce qu'on a des chutneys et,
oui, non, mais
et
là,
c'est pour accompagner la viande.
Dans la crème d'ail.
Là, entièrement végétarien, ouais.
C'est vachement bon, c'est doux.
Ouais.
Ça a une belle longueur en bouche. Est-ce que ça reproche?
Comment ?
Est-ce que ça reproche ?
Est-ce qu'on pue de la gueule ?
Malgré tout, un petit peu. Un
Parce
petit
que
peu, mais pas autant que l'ail.
Ce qui fait rôter dans l'ail, c'est le germe. Si on enlève le germe...
Rôter, non. Après, malgré tout, on a une petite haleine. Je conseille de le consommer en couple.
Ouais. Oui, voilà. C'est ça, il faut le faire. C'est ça, il faut le faire à deux.
Ben ouais. Moi, je suis à ma deuxième tartine, donc...
Je tiens à signaler qu'on fait une crème d'ail aux bonnes herbes aussi. Donc, il y a du basilic, du romarin, de la sarriette, du thym et du persil.
Et pas
de gingembre.
Pas de chat dedans, rien.
Pas de chat, rien.
D'accord, ok.
On travaille que le fruit.
Tout
le fruit,
hein.
Les aromates, les
Où
fleurs.
Où est-ce qu'on trouve tout ça? Où est-ce qu'on trouve les chutneys? Où est-ce qu'on trouve le sirop de basilic qu'on va goûter tout à l'heure, après la musique? Où est-ce qu'on trouve la crème d'ail aromatisée?
Alors nous, on débute, donc pour l'instant, on le trouve à la boutique qu'on a à la ferme, à Dunes. Donc, qui est ouvert
Même pas sur Internet, je peux pas commander et l'avoir comme
si,
ça.
Si, on est en train de s'occuper de notre boutique en ligne qui sera ouverte dès le début de l'année. Donc,
et on vous trouve comment?
Sur Internet ou à la boutique?
Ah, sur Internet. Donc
pas encore, en janvier.
En janvier,
pour le moment, on va à Dunes.
Pour l'instant, on va à Dunes ou au marché de Valence d'Agen le mardi matin.
Et ici, jusqu'à dimanche soir, au marché des faiseurs singuliers, place nationale à Montauban. Parce que je vous rappelle que ce qu'est-ce qu'on déguste est réalisé en direct d'ici. Et même si vous nous écoutez à midi, c'est-à-dire si vous écoutez la rediffusion de cette émission,
il n'y a
pas de problème parce qu'on y est aussi. On est là tout le temps.
Attends,
ils ont réussi à me piéger. J'y suis jusqu'à dimanche soir. Maman, viens me chercher. Au secours !
On écoute un petit disque, une spéciale dédicace à notre amie brésilienne qui nous a rendu visite la semaine dernière.
La semaine dernière.
On part à Brésil en 1973 avec João Bosco, le morceau Baila com Baila.
C'est
tout bon.
Oui, c'est tout
un peu de chaleur, ça ne fera pas de mal.
Obrigado.
C'est tout bon.
Dans cette ambiance de fin du monde, j'ai inversé mes deux disques. Là, on n'était pas du tout au Brésil, on était aux États-Unis avec Linda Williams, Elevate Your Minds. Élevez votre esprit. Il va falloir que je le fasse, moi, ça, en 2013.
Ça n'a rien de brésilien.
Pas du tout. Le Brésil, c'est pour tout à l'heure. Et Joe Bosco.
Brésil.
On reprend notre conversation dans Qu'est-ce qu'on déguste avec Sabine Nérière du Verger du Toutico à Dune. Pascal, tu avais une question.
Oui, je ne sais plus. Non, je voulais parler. Je voulais parler de ça aussi. Le
toi, sirop, à ton affaire.
Le sirop maison au basilic.
Oui, exactement.
Alors, ça sert à quoi ça?
Dégustation.
Alors, à plein de choses. Alors, certains l'utilisent dans de l'eau ou de l'eau gazeuse. Moi, c'est pas trop.
C'est pas pour les bains de pieds, hein.
Non, pas du
ni
tout.
Ni pour les bains de siège.
Alors, par contre, j'insiste, c'est un sirop. C'est pas
d'accord.
C'est sucré. Hein.
D'accord.
Et donc, on l'utilise en apéritif. Allez. Avec de la vodka ou avec du rhum.
Ah ben la vodka, très bien.
Il y en a qui vont arrêter la vodka jet pour faire la vodka basilic.
Très, très bon.
Alors,
c'est vrai qu'on a l'impression de boire une tomate mozzarella basilic.
Oui, alors on peut faire une chantilly, par exemple, pour accompagner une tomate ou un peu de poivron.
C'est délicieux.
On
c'est
peut simplement mettre un filet, mais c'est sucré. Donc, il faut forcément aimer le sucré salé.
C'est super rigolo.
Donc là, il n'y a pas de chimie,
il n'y a rien. Jamais.
Le basilic, il est de chez vous quand même. Il est pas chez la cousine.
Il est entièrement de chez nous.
Qu'est-ce qu'on met comme quelque chose pour que ça tienne longtemps?
Rien.
Ça tient pas alors?
Si, c'est le sucre.
Ah, c'est le sucre qui fait que.
C'est le sucre qui maintient, tout seul. Il n'y a pas besoin d'aucun conservateur.
On peut jeter ça un petit peu sur sa salade, pourquoi pas?
Bien sûr, mais moi, ce que j'aime bien, c'est surtout c'est avec les fruits, les desserts. Donc ça va avec les fraises, les abricots, l'ananas, la pêche, le brugnon. Voilà, un fruit frais, un fruit poêlé, un fruit en glace.
Et dans des bolognaises. Parce que souvent, tu sais, dans les bolognaises, pour la sauce tomate, tu rajoutes un sucre, par exemple.
Ouais,
tu vois.
Faudrait en mettre beaucoup quand même.
Ah bon?
Ouais. Pour avoir coupé le sucre.
C'est cher?
C'est cher?
Non, mais je sais pas.
Non, c'est pas cher, mais c'est noyé. C'est noyé, en fait, le goût du sirop. Dans la tomate, moi je trouve. Mais c'est un avis personnel.
Oui, on a qu'à mettre vraiment du.
Après, on en fait ce qu'on veut. Moi, j'ai une dame qui le met dans son yaourt. Elle adore ça.
Qui le met dans quoi?
Dans son yaourt.
Oh, pourquoi pas?
Mais oui, tout à fait.
Pas mal.
C'est son petit.
En tout cas, c'est vraiment très bien. Ouais, et vous créez comme ça des recettes de chutney, de sirop. Vous en avez plein. Vous avez un étalage qui est assez impressionnant.
On a une quarantaine de variétés de produits. Donc forcément, là, c'est juste un petit échantillonnage.
Donc vous démarrez. C'est pour ça aussi que vous avez un tel panel. À un moment, quand vous allez avoir de la demande, vous allez vous resserrer peut-être sur tel ou tel produit.
On commence déjà. Ouais, on commence à se resserrer, mais on essaye de garder une belle variété quand même pour parce qu'on adore ça en fait. Tout simplement, on adore créer des recettes. On adore avoir une variété, pouvoir adapter en fonction de ce qu'on a envie de faire.
Allez, donc, moi, je plonge avec ma cuillère dans le pot. Qu'est-ce que c'est exactement?
C'est une confiture.
Attends, ouais,
poire William.
Ça a coulé.
Attends, Georges a une question. Georges a une question, mais il n'y a pas de micro.
Parce qu'avec cette, ce sirop, on doit pouvoir faire des cocktails. Moi, je vois en le mettant bien au en le mettant au frigo, au glaçon, en le partageant avec 50% de grappa. Ça doit donner quelque chose de sympathique.
Oui, ça doit faire quelque chose d'intéressant. Mais comme je dis, tout le monde fait un peu ce qu'il veut avec nos produits. D'ailleurs, on voudrait faire un blog où les gens pourraient laisser leurs recettes, nous mettre les nôtres et les gens donner leurs idées de recettes parce qu'il y a vraiment une possibilité énorme avec, avec les produits. Donc,
Eh bien, il faut faire.
Il faut juste le temps parce qu'il faut transformer aussi tous ces produits, les récolter, les faire venir, les transformer. Donc là, on va commencer.
Comment vous les faites venir d'où?
Les faire venir de nos
de
arbres.
Ah,
de nos arbres. Vous savez, taillés.
Elle s'en est bien sortie.
Parce que lui, il fait 75 000 bouteilles.
Il les importe de Belgique.
25 containers, tu vois.
13 hectares. On est en famille, heureusement, parce qu'il faut les entretenir, les 13 hectares.
Sabine Nérière, verger de Tutico, à Dunes, en Tarn-et-Garonne.
Ça veut dire quoi, Tutico?
C'est le lieu dit.
Ah, c'est le lieu dit, d'accord.
En Tarn-et-Garonne, et j'ai enfin fini. Merci Sabine d'être venue là.
On n'a pas parlé de ma confiture.
Mais parlons-en.
Et poire William, ce pétale de rose.
Eh oui, nos roses.
Ça, c'est terrible. Hein.
Elle est bonne.
Nos roses.
Que tu cultives aussi pour ça?
Ouais. On a planté des rosiers pour faire nos produits. Donc, on fait un sirop de rose aussi. Et on utilise les pétales.
Oui, je lui ai dit de ne pas amener le sirop de rose parce que j'ai trouvé que ça faisait trop commun. C'est vrai en plus.
Ouais, mais avec un champagne, c'est fantastique.
Alors, c'est Nadine commun. Et Frédéric Nérière à
Dunes, la variété de la rose.
Verger 2, verger au pluriel, -2-toutico.fr.
C'est ça.
Et juste une petite question de Jean et ce sera la dernière.
Est-ce que le parfum de ta confiture change en fonction de la variété ou de l'espèce de la rose?
Tout à fait. Tout à fait. Il y a, toutes les roses n'ont pas le même parfum. Donc on choisit vraiment les rosiers qu'on utilise pour avoir
alors ça, c'est quoi comme rose?
La saveur qu'on veut. Alors celle-là, je ne vais pas pouvoir vous dire le nom.
Ah bah voilà.
Alors, c'est le rosier de chez Mamie qui nous fait des superbes roses pâles et qui a une saveur fantastique. Donc on réutilise ce pied pour faire plusieurs autres pieds. Et après, pour faire le sirop de rose, on utilise le papa meillant.
Mais ça, ça a plus une texture de compote, tu vois, que de confiture en même temps.
Pourtant, ça a le taux de sucre d'une confiture. Mais on fait toujours au minimum pour parce que trop sucré tue le goût un petit peu.
Trop de sucre
tue le sucre.
Sabine Dernière, verger du Tutico, merci d'être passé dans cette émission. Bravo, bravo, c'est super bon, bravo.
Sometimes I feed up, sometimes down, sometimes I turn myself into a beast.
Aujourd'hui, au point de vue de jazz, j'ai choisi Dave Brubeck. Dave Brubeck s'est fait connaître dans les années 58 grâce à un titre qui a été composé par Paul Desmond qui s'appelle Take Five. Et lors du décès de Dave Brubeck la semaine dernière, toutes les radios du monde ont posté une composition de Dave Brubeck. Pas de Dave Brubeck.
Dave Brubeck. Dis-le, répète. L'assassin sur son sein, sur ses sons sans cesse. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches?
Dave Brubeck. Dave Brubeck. Et en fait, c'est une composition de Paul Desmond et ça s'appelle Take Five.
Ah, Take Five. Bravo. On reboit des coups. Je vais chercher le mec de chez Casalou et on continue comme ça.
Jean-Claude. Il n'y a pas, il y a que du vin.
Mm-hmm.
Dave Brubeck a fait une évolution dans le jazz en utilisant des rythmes autres que les rythmes ternaires et binaires. Il a utilisé des 5-1, des 5-4, des 6-4, des 7-4, des
ça,
rythmes.
Ça, ça parle aux musiciens, mais c'est des rythmes en fait. Hein.
Des rythmes qui sont complètement différents de ce que vous avez l'habitude d'entendre.
D'habitude, vous écoutez du 4-4, messieurs, dames, quand c'est du rock'n'roll, et du.
Et du 3-temps quand c'est de la valse.
Et du 3-3 ou du 3 quoi ? Du 3 quoi ?
Du 3-4 pour la valse.
Voilà, 1-2-3, 1-2-3. C'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui en sorcelle. Qu'est-ce qu'on déguste ? Du Mas des Anges, du domaine du Bernès, et en compagnie maintenant de Jean-Claude Guéral. C'est le frère de Bruno, vous allez savoir pourquoi je dis ça. De la ferme de Casalous. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est Bruno le paysan. C'est Bruno qui nourrit les bêtes. C'est Bruno qui est à la ferme, quoi. C'est Bruno le fermier. Et le gars qui est à côté de moi.
Lui, il a trouvé une bonne poire pour bosser et lui, il fait le branleur.
Jean-Claude Guéral, vous avez vu les bras qu'il a ? Ce monsieur a fait du rugby à l'international. Voilà, ce monsieur est un rugbyman. Voilà. Et à un moment, donc, il s'est dit tiens. Je vais arrêter le rugby.
L'autre idiot, il bosse comme un âne à la ferme. On va peut-être en faire quelque chose.
Je vais exploiter le travail de mon frangin. Non, blague à part. Bonjour Jean-Claude, ça va ?
Ça va. Bon, c'est pratiquement la vraie histoire, mais un peu arrondi quand même. Non, c'est vrai que j'étais ancien joueur de rugby, fonctionnaire d'État à la jeunesse des sports. Et c'est vrai qu'il m'a largué sur Montauban, voilà. Et on avait une opportunité, un accueil de la ville de Montauban sur les loges de Montauban au marché couvert. Et depuis le 1er avril, voilà, je suis Montalbanais à plein temps.
Et c'est toi qu'on voit avec ta plancha réchauffer tous les midis des magrets.
Enfin, c'est surtout Sonia quand même aussi.
Non, il y est. Enfin, moi, il y est souvent. Ouais, hein,
il surveille, il supervise. Oui.
Il y a des saucisses.
Oui, parce que
je
suis pas trop bien payé encore. J'attends une augmentation par rapport à la famille. Et, donc j'essaye de mettre des personnes en remplacement.
Des confits, des patates et tout ce qui vient en fait de la ferme de Casalous.
Et ça sent bon.
Présentation, s'il te plaît, Jean-Claude, de la ferme de Casalous.
Alors la ferme des Casalous est située limitrophe entre le Lot, le Tarn-et-Garonne et l'Aveyron. C'est-à-dire on se trouve à 7 km puis la Garde, qui est le Tarn-et-Garonne, dans le Lot. Et à 7 km de l'autre côté, on se trouve sur Villefranche-Rouergue. Là, on a une chance sur Villefranche-Rouergue où on transforme tous nos produits, c'est-à-dire grâce au lycée agricole de Beauregard. Voilà, on rentre nos produits et on les transforme entièrement par...
Pourquoi grâce au lycée de Beauregard ?
Mais ce lycée nous permet d'utiliser tous les locaux. En contrepartie, on forme les élèves et les profs à la fabrication. Et en contrepartie, on utilise tous les locaux qui sont normes européennes. Et bien
donc
sûr,
toute la partie laboratoire.
Voilà, avec tous les avantages de tous les outils, toutes les chambres froides, tout ce qui est aux normes, les plastifieuses, les étiqueteuses, et voilà. Ce qui permet également d'avoir, pour les particuliers, un coût de revient très intéressant, puisque depuis 5 ans que l'on fait les marchés, avant on faisait que les professionnels, et là depuis 5 ans on s'est lancé sur les marchés Aveyronnais, du Lot. Également les marchés de producteurs sur Avignon, Montpellier et Paris où je me permettais de sortir avec ces bons produits de la ferme de mes parents, de troisième génération. On a la chance d'avoir mes parents, le grand-père encore,
oui,
sur l'exploitation.
Elle est là, la maman.
La maman est sur les loges là, actuellement, en train de me remplacer, tout à fait.
C'est une grosse exploitation. Hein, enfin, par exemple, on a accueilli tout à l'heure, comment il s'appelle,
mon collègue, oui.
Oui. Zut, je cherche son nom. Pascal Zobovny des poulets tout de la Béjo, qui à côté a une petite production. Hein.
Oui, il débute. Voilà, bon, lui, sa spécialité, je pense que c'est plutôt le poulet. Bon, il avait le canard, qu'il a de très très bons produits. Hein. Tous les producteurs, comme j'explique sur les marchés, vous avez un marché sur Montauban qui est superbe. Moi, lorsque je suis arrivé, on m'a dit c'était le deuxième, voire le troisième marché de France. Je voulais voir quand même avant de
celui du samedi matin. Hein.
Du ouais. Samedi matin, tout à fait. Et il est vrai que c'est un super marché. Ça nous valorise, ça valorise vraiment le travail qui est fait à l'amont. Nous, pour en revenir à mon collègue, voilà.
Toi, combien il y a de en production? Combien
en production? En production, on reçoit toutes les 4 semaines entre 700 et 1400 canards et on tue entre 150 et 200 canards semaine. Gavage également, hein, 150 à 200. Donc,
quand tu dis tu reçois des canards, c'est-à-dire tu reçois alors, des poussins en fait.
Voilà, tout à fait. On reçoit des tout petits canards qui ont quelques heures, moins de 15 heures. Qui viennent du Gers, voilà. Ils sont transformés à la ferme avec le propre maïs de l'Aveyron, des établissements Calvé, voilà, avec un gavage traditionnel, été comme hiver. On gave et on tue 150 à 250 canards semaine.
Et ben voilà, et ça s'appelle
la ferme des Casalous.
J'allais dire le pâté des Casalous parce qu'en fait, voilà. Je viens de tourner une boîte là comme ça, 25% de foie gras dans le pâté de Casalous.
Alors là,
attends. Après la coupure, on boit un petit blanc doux, délice de Loïs. C'est le fameux blanc doux, tu sais, élevé en fût d'acacia.
J'espère que les invités ont bien droit également. Hein.
Qui sait? Toi, tu en veux? C'est ça?
Ah, je veux bien.
Allez, c'est l'heure des infos. On se retrouve dans quelques instants.
Non.
Quoi, non? Tu veux pas du...
Jour rouge.
Ah, bah...
Non, ça me rappelle la framboisine.
Oh, non. Alors là, c'est pas vrai, parce que c'est... ça n'a rien à voir. C'est quand tu veux, Aurélien, vas-y.
CFM. Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Vous prenez le train en marche, sachez que nous sommes place nationale à Montauban, sous le grand chapiteau du marché de Noël des faiseurs singuliers. En face de moi, Nathalie Patard est en train d'analyser le goût de son délice de Louis. C'est un blanc doux élevé en barrique
d'acacia
qu'on est en train de faire filer avec le foie gras de la ferme de Casalous. Comment tu trouves?
Il a un petit goût de fumée et de fruits confits. Donc,
de quoi, son foie gras?
Non. Le blanc doux vieilli en barrique d'acacia, c'est vraiment un produit d'exception que pas grand monde
parle. Parle-nous justement de l'élaboration de ce blanc doux là.
C'est un blanc doux qui a été vinifié normalement et puis qui a été passé en barrique pendant un an à 18 mois, je pense, dans une barrique d'acacia. Donc ça lui donne ces petits goûts un peu fumés, fruits confits. Et un petit
floral,
peu d'acidité aussi.
Fleur blanche.
Et en même temps, je trouve très léger, pas très sucré justement. Pour un blanc doux, je ne le trouve pas lourd. Tu vois.
Mais notre blanc doux n'est déjà pas. C'est un peu notre spécialité. Hein. On n'a pas un blanc doux qui est liquoreux. On a un blanc doux léger, fruité,
c'est ça.
Et pas trop sucré. On n'ajoute aucun mou sucré, aucun sucre d'ailleurs. C'est un blanc doux naturel. On stoppe la fermentation à un certain degré, donc fatalement, il a moins de degrés aussi qu'un blanc doux normal qui se vinifie jusqu'au bout. Le sucre passe en alcool. Or là, le sucre est stoppé, la fermentation est stoppée à un certain moment, ce qui fait que il reste du sucre et il y a moins d'alcool.
Oui, enfin, il fait son 12 degrés réglementaire, oui, voilà. Écrit sur la bouteille, ce qui veut dire, mon cher Pascal Olivier, tu es bien d'accord avec moi que c'est bien 12,5. Hein, que ça fait.
Ça doit faire même 13.
C'est, non, quand, non, c'est non. Même quand Juan Kervin du Mas des Anges met sur sa bouteille. Du Mas des Anges.
Non, mais c'est du rouge, il est vinifié jusqu'au bout.
14 degrés qu'il met sur sa récolte 2011. Eh ben, je suis sûr qu'il fait 14,5 son truc.
Oui, mais nous, celui-là a été stoppé. Donc, fatalement, le sucre ne s'est pas transformé jusqu'au bout en alcool, si bien qu'il a moins de degrés.
Fatalement. Un mot avant de te libérer, Jean-Claude, sur ce foie gras qui est devant toi, là, qui porte un nom particulier.
Et c'est tout simplement un nom, un lobe, mais bon, un lobe d'un producteur, dont notamment mon frère. C'est un lobe qui est très très courtoisé par les professionnels puisque il s'en sert beaucoup pour les terrines et surtout pour le poêlé, d'une qualité puisque bon par rapport aux aliments, par rapport au gavage, ils font presque pas dans, dans la poêle, quoi, hein, qui peut être utilisé avec n'importe quel ingrédient de très, très bonne qualité. C'est le lobe du canard qui donne tout sur le canard, c'est-à-dire si le lobe est beau, eh bien, les magrets vont être jolis, les cuisses, etc. etc. quoi, hein.
Comment tu manges le foie gras?
Alors, nous, on est un peu spécial, puisqu'on en mange presque pas, quoi.
C'est ça.
On mange presque
pas. Non, mais c'est pour ça que je demande à des gens qui en ont un peu ras-le-bol. Pour eux, c'est du pâté, tu vois.
Non,
mais c'est vrai, quand on a tous les jours à table, bon, au bout d'un moment, tous les mecs qui nous écoutent, on est une radio à la fois urbaine, parce qu'on émet sur quelques villes, mais aussi à la campagne. Et tous les mecs qui nous écoutent à la campagne, ils mettent tous les dimanches du foie gras sur la table, quoi. Donc ils savent.
J'en parlais justement avec ton collègue. Il y a 50 000 recettes sur le foie gras et on en apprend toujours et on goûte toujours.
Et la tienne, c'est quoi?
Alors la nôtre, c'est celle où j'ai appris avec un collègue restaurateur, tout simplement en carpaccio, c'est-à-dire ils mettent le foie au frigo avec une température basse et simplement trancher tout fin et poser en carpaccio sur. Sur une assiette avec d'autres ingrédients.
Un petit peu de gros sel ou pas?
Voilà, du gros sel, c'est de guirlande. Voilà, tout à fait.
Sel,
tout simplement.
Un trait de poivre au moulin.
Voilà, sans feu d'artifice. Voilà, ouais. sans
aromatique. Par contre, le feu d'artifice, tu l'as dans la bouche.
Voilà, tout à fait.
Oh, bravo.
C'est joli.
Merci Jean-Claude Guéral de la ferme Casalousse. Merci, c'est délicieux. Bravo. On enchaîne.
Et oui, moi je profite de l'absence de notre chroniqueur BD Gaël pour revenir sur un ouvrage qu'il avait déjà évoqué, Les Ignorants, qui est un bouquin qui est apprécié par les vignerons d'ailleurs, qui sont ici présents. Les Ignorants d'Étienne Davodeau et Richard Leroy. Davodeau, c'est un auteur de BD, il connaît pas le monde du vin. Leroy, lui, il est vigneron, il a pratiquement lu aucune BD de sa vie. Et c'est la rencontre de ces deux mondes qui a lieu sous nos yeux dans ce très beau livre. Pendant un an, Étienne est allé travailler dans la vigne et dans la cave de Richard. Ils ont ouvert des bouteilles, ils ont partagé leur expérience réciproque et cela donne une BD intéressante et bien construite. Au niveau présentation, la BD est en noir et blanc, composée de 19 chapitres et pas loin de 300 pages. Au fil des pages, justement, la rencontre entre ces deux êtres différents, mais au final pas tant que ça, a lieu. Et cette initiation croisée est vraiment bien retranscrite par le texte et les dessins des ignorants. J'ai aussi apprécié de retrouver tous les termes que j'ai découverts à travers les invités de Qu'est-ce qu'on déguste, la biodynamie par exemple, tous les termes utilisés par les vignerons. Et il y a un moment clé du livre en page 102 où nos deux protagonistes passent à côté d'une vigne qui est désherbée chimiquement et on voit le gars dans le tracteur en train d'étendre ses pesticides. Et le dialogue entre les deux compères est représentatif de cette bande dessinée et plus généralement de ce que l'on défend dans l'émission. Donc je vous lis les dialogues, ils passent à côté du tracteur et ils discutent dans la voiture. C'est quand même vachement moins fatigant que votre technique. Tu as remarqué, dans sa cabine, avec sa combinaison et son masque, aujourd'hui ce mec-là ne va sans doute toucher ni sa terre ni sa vigne. Et la conclusion, la proximité physique et donc mentale du vigneron avec son travail, pense à ça quand tu bois du vin. C'est vraiment une excellente bande dessinée, c'est un classique. C'est d'Étienne Davodeau, Les Ignorants, aux éditions Futuropolis. Bravo. Très très bonne.
C'est du vin.
Vous la connaissez, cette bande dessinée?
Gaël l'avait déjà chroniqué quand même.
Il recycle, ah oui, il recycle les chroniques de Gaël.
De Gaël. Ah. Il est de plus en plus vicieux, ce garçon-là.
Il m'a inspiré.
Juan, voudrais-tu bien, s'il te plaît, mettre un peu dans ce verre de ton masque des anges, dont je disais quand tu étais absent tout à l'heure de ce micro, que s'il écrit 14 sur l'étiquette, c'est qu'il fait peut-être 14,5.
Alors, au point de vue degré d'alcool, nous avons une marge autorisée, c'est tout à fait légal, de 0,5. Mais nous n'avons aucune obligation d'aller toujours vers le chiffre supérieur. C'est-à-dire que un vin annoncé 14 degrés peut très bien faire du 14,1 comme du 14,49.
Et donc, celui-ci fait
14, il y en a un peu plus, je vous le mets.
je voulais qu'on le goûte avec la saucisse, par exemple, de...
Comment vous? Pas mal. Non, ça te plaît pas, toi. Hein. Tu préfères le Bernès. Non. Ouais.
Non, râle, hein. Non, c'est parce que, bon, on passe un peu d'une chose à l'autre d'une façon très bizarroïde.
Attends, on était au foie gras
avec ton blanc doux.
C'est ça, du rouge après du blanc doux. Je suis déjà passé au rouge, moi, auparavant. Hein. Parce que vous m'avez pas observé, mais pendant que vous étiez au blanc doux, moi j'étais qu'au rouge.
Pascal, est-ce qu'on a le droit de passer du blanc doux, du blanc sec au blanc doux, du blanc doux au rouge, du rouge au blanc sec, au blanc doux, au vert? Est-ce qu'on a le droit?
Non,
non. Absolument pas.
Au niveau gustatif, c'est pas très bon.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
On commence par l'agnole. Déjà, on se fait une bouche à l'agnole.
Mais non, mais moi je voulais le goûter avec la saucisse.
Bon, il faut quand même aller du plus suave, du plus fin jusqu'au plus corsé.
Oui, mais enfin,
on va pas commencer au gigondas pour finir.
Mais souvent on boit quand même du sucré, enfin du doux à l'apéro. Les filles, par exemple. Les filles, c'est souvent ça. Quoi. Les filles, c'est.
Oui, mais toi,
framboisine.
Mais non.
Voilà, la framboisine, c'est pour les filles ou les vieux.
Je suis pas d'accord. Ça, c'est encore un a priori sur les
macho.
Filles.
Macho.
Ah, oui, non. Moi, j'aime beaucoup le blanc sec. Et les choses sèches à l'apéritif, et on finit par un doux en fin de repas.
Mais oui, Rémi.
Elle m'a cloué le bec.
Il y a plein de filles qui adorent le vin rouge aussi, Rémi.
Voilà, et le blanc sec aussi.
Je ne sais pas du tout où se trouve Séverine Boyer du Thé Divin. Mais Séverine, vous avez intérêt à vous manier, parce que c'est l'heure, c'est votre tour, et cette émission est en direct. Et du coup, comme le temps tourne... On a de la musique ou on a une recette de Pascal Olivier? Parce que normalement, on a une recette de Pascal Olivier.
Et on part au Brésil. Tout à l'heure, on n'a pas pu écouter mon morceau.
On part au Brésil.
Et après c'est la recette quand même.
Allez. Une petite recette.
Ça va, Jean?
Mais tout va bien.
Est-ce que monsieur le coprésident des faiseurs singuliers est bien?
Ah bien, non, ça dépend. Ça dépend comment vous le voyez. Mais je suis content. C'est une chose rare, ça mérite d'être dite.
C'est vrai que tu as une réputation quand même d'être un petit peu un...
Arrête-toi.
Mas o tempo corre, suor escorre, vem alguém de porra e há corre e o mocinho chegando, dando. Eu esqueço sempre nesta hora linda loura, minha velha fuga em todo impasse. Eu esqueço sempre nesta hora linda loura, quanto me custa dar a outra face. Trapo presa, minha coragem muda em cansaço. Toda fita em série que se preza, dizem reza, acaba sempre no melhor pedaço. Epia, 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 epia.
Ah, que ça nous fait du bien, ce son brésilien. On était en 1973, on était au Brésil avec Joe Bosco, le morceau Baila com Baila.
Pascal, une recette.
Les boules de Noël. J'ai décidé de faire les boules de Noël.
Et je demanderai à Séverine Boyer du Thé Divin d'être attentive, parce que j'ai fait exprès d'attendre que vous soyez là pour qu'il nous fasse sa recette.
4 boules de Noël pour 12 personnes. 1 kilo d'eau. 1 litre d'huile. 1 litre de beurre. 1 kilo de farine. On mélange jusqu'à une consistance dite onctueuse. Les meilleurs auteurs parlent vraiment de cette consistance onctueuse, quelque chose qui, une pâte qui file bien. On façonne, donc on touille cette pâte, hein, ces ingrédients, de façon à faire une pâte homogène et onctueuse. On la fait cuire dans un litre d'eau jusqu'à évaporation. Mais attention, l'eau doit être froide. J'insiste, l'eau doit être froide.
Oui.
Une fois que c'est cuit, on étale les boules, on les coupe en quatre et on a une recette, une excellente recette pour 12 personnes, c'était les boules de Noël.
Oh, c'est des boules de Noël qui auraient pu être de, comment s'appelle-t-il, Pierre Dac ou...
Non, Pierre Rep peut-être, ouais. Mais non, même pas. C'est des boules de Noël, les boules de Noël à ma façon, cuites à l'eau froide, et c'est délicieux. Alors, en accompagnement, vous pouvez mettre une petite confiture d'ail.
En fait, il n'a pas osé, il voulait faire un soufflé au chocolat. Et sachant,
ah mais je l'ai le soufflé au chocolat.
Non mais c'est trop tard, t'as passé ton tour mon gars. Mais non mais maintenant tu vas te
j'ai
taire
choisi.
Et tu vas laisser Séverine Boyer du Thé Divin à Montauban nous raconter elle. Ah non, je dis pas de recette. Voilà, je donne aucune recette, etc. Bonjour Séverine. Attends, un micro s'il vous plaît. Là, voilà. Allez.
Elle veut
tu
pas.
Tu veux bien t'asseoir. Et arrêtez de me mettre du jus de ton gâteau partout là parce que vraiment j'en suis badigeonné. Ça va?
Oui, bonjour, ça va? Très bien.
La gourmandise est un
vilain. Qu'est-ce que c'est que tu nous as servi là?
Une Kay Lemon Pie, c'est la tarte au citron meringuée version américaine.
Voilà, et c'est un petit peu la spécialité de la maison?
Oui, tout à fait.
Alors, présentation du Thé Divin, c'est ici, Place Nationale, sous
exactement.
Les arcades.
En dessous.
Descend. Ouais,
on y a mangé une fois tous les deux.
Et c'est le rendez-vous parfait si t'as une maîtresse ou si t'as un amant. C'est
bon, alors, en plein été, planqué
à mort, tu descends là-bas en bas et tu peux te faire un petit thé, un petit chocolat avec un truc. Enfin voilà quoi, les rendez-vous d'amoureux, c'est l'endroit, non?
Et en plein été là-bas, il n'y a pas d'air conditionné et il y fait 14 degrés en plein été. Oui. C'est le régal.
Oui, donc, presque. Oui. Mais enfin, c'est plus agréable sur la place nationale, sur la terrasse quand même.
Tu nous présentes
une belle place. Alors le Thé Divin, c'est un salon qui a été créé il y a à peu près 6 ans par Pascal Leleu. Nous l'avons repris il y a 2 ans et il avait là un concept extraordinaire avec des recettes géniales. Et donc on a repris ces recettes, on en a amélioré certaines et voilà, donc ça fonctionne bien. Nous sommes ouverts du lundi au samedi.
Quand tu dis nous, c'est toi et ton mari, c'est ça?
Exactement, tout à fait, tous les deux.
Je dis ça pour Christophe qui des fois aurait des velléités, elle est mariée.
Voilà, donc on propose une restauration rapide le midi avec des tartes salées, des scones, des salades.
Les scones, vous avez repris les scones.
C'est quoi des scones?
Tout à fait. Des scones, c'est des petits pains au lait faits maison. En fait, c'est une pâte à pain montée avec du lait, donc on a une texture un petit peu briochée. On coupe ça en deux, on le garnit de différentes façons avec un chutney, du foie gras ou bien avec des chèvres et des pommes caramélisées. Du saumon sur une fondue de poireaux, enfin voilà, plein de petites choses et tout ça avec des petits flans de légumes, des crudités. Voilà, et après on propose bien évidemment des pâtisseries.
Et alors les pâtisseries, c'est fait maison, c'est
Séverine. Tout est fait maison.
Comment s'appelle Monsieur Boyer?
Comment?
Son prénom à Monsieur Boyer?
Arnaud.
Donc c'est Séverine et Arnaud qui se mettent au fourneau?
Exactement.
Tous les deux le soir?
Non, le matin.
Est-ce qu'il y a un concours? Tiens, moi je vais faire une tarte aux myrtilles. Non, attends, moi je bouge pas, je vais faire la tarte au citron.
Non, on a nos produits de prédilection. Par exemple, la citron meringuée, c'est moi.
Ouais.
Le cheesecake, c'est Arnaud. Les scones, c'est moi. Le croustillant praliné, c'est Arnaud. Voilà, on a chacun nos produits qu'on maîtrise.
Qui fait la plonge?
Tout le monde.
Moi, ce que j'aime
bien. Les patrons, les employés, tout le monde. Oui, tout à fait.
Ce que j'aime dans la pâtisserie, c'est qu'il faut que ce soit bon, mais qu'en plus ce soit beau. Il y a quand même un côté un petit peu...
Là,
il faut donner
bon.
Dans la présentation, tu vois. Ça, c'est très bon, ton truc. Bon, tu ne nous donneras pas la recette, évidemment.
Non, je ne la donnerai pas. Je ne la donnerai pas parce que...
Elle est en train de mettre du thé partout.
Oui, c'est vrai. Elle est spéciale et puis plusieurs nous ont déjà essayé de la copier. Donc, on y tient et donc voilà.
Alors, un petit reproche. On ne sent pas trop le foie gras.
Énorme. Essayez de le rajouter, remarque, au milieu là, une petite couche fine et...
Non, on le sent pas, on dirait que c'est...
Parce qu'on sent le citron.
Faut aimer le sucre
tout
de même quand même.
Bon,
faut aimer le sucre.
Pas assez.
Pas trop, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de zeste. Donc juste un détail, je donnerai une tarte au citron, généralement tout le monde me dit, je mets 2 citrons et le jus et le zeste. Moi, je mets 5 citrons, mais uniquement le jus et pas de zeste.
Pas de zeste, sinon je fais un malheur.
Voilà, on n'a pas l'acidité et juste la douceur.
Il a voulu faire une blague, mais elle est ratée. C'est parce que c'est normalement, c'est pas un zeste, je suis pressé.
Oui, non, mais bon. Il y a encore des histoires là-dessus.
Vous voulez goûter le thé? Non. Vous voulez goûter le thé? Vous voulez pinard, moi?
Alors, ben nous, on est assez pinard, oui, quand même, comme tu as pu le remarquer, mais sinon, ton thé. Ah, tiens, tu veux que je. Ton thé t'a-t-il guéri ta toux? Non, ton thé t'a-t-il ôté ta toux? Alors, vas-y, c'est quoi la suite?
Ton thé t'a-t-il ôté ta toux? Moi, j'en suis resté là aussi.
Ouais, moi aussi. Putain, c'est chaud, dis donc. Eh bon, mais eh oh. C'est très bon.
Est-ce qu'on boit du vin au thé divin ou est-ce qu'il faut vraiment se fader du thé?
Non, on boit du vin. Et d'ailleurs, très prochainement, on boira du vin du domaine de Biarnès. Avons bien apprécié, donc on.
Alors
on
que le Mas des Anges, vous n'avez pas aimé.
Mas des Anges.
Non, j'ai pas eu l'occasion encore de trop goûter le Mas des Anges. J'ai bu juste un petit verre avant de venir, manière d'être.
Attention, il est cher.
Bien dans l'ambiance.
Tu sais que oui. En fait, elle s'est saoulée avant de venir pour pouvoir parler à l'antenne. Elle s'est saoulée. J'allais la voir, elle me dit attends, j'ai bu qu'un verre. Après, je revenais. Attends, j'ai bu que deux verres. Attends, il m'en faut un troisième. Et la voici. Bravo Séverine. C'est, en tout cas, bravo, c'est très bon. Je ne peux pas le finir parce que je ne. Tu as vu l'estomac, la ligne, tout ça.
Bon. Non, et c'est les, pas l'estomac. Les lignes courbes. C'est la culotte de cheval.
Ouais. Tu étais pressé de partir en même temps, hein, j'ai l'impression. Tu te plais pas en notre compagnie. Parce que tu peux rester là. C'est pas parce que je vais aller chercher Olivier Schneider, le roi du cannelé, que tu dois te sentir obligé de partir. Moi, je suis avec toi en charmante compagnie. Je te propose de rester là.
Allez. Oh, mais je m'en vais, hein.
Nous sommes toujours sur Dave Brubeck Quartet. Là, le morceau que nous écoutons, c'est Three to Get Ready, qui a été repris par notre ami Claude Nougaro. Il faut dire que Dave Brubeck, sa mère était pianiste, son père est d'origine suisse. Ils ont immigré aux États-Unis, ils étaient propriétaires terriens. Et Dave Brubeck avait des problèmes de vue, il n'y voyait pas trop. Donc sa mère lui a appris la musique, mais phonétiquement, elle lui a appris, ça lui apprend vraiment la lecture. Donc il a suivi un cursus musical particulier où il n'a pas étudié du tout le solfège. Il a suivi des études dans les facultés, mais on lui a donné le diplôme à condition qu'il ne fasse pas d'enseignement. Donc il a travaillé aussi avec Schoenberg en Autriche, avec de grands compositeurs français, mais il est resté toujours dans le jazz, et le morceau que nous écoutons a été repris par Claude Nougaro. Thank you. Street to Get Ready, plus connu sous le nom du Jazz et la Java.
Si c'était la fin du monde, qu'est-ce qu'on ferait des contingences horaires? On s'en foutrait en fait. À quoi ça sert finalement de se lever le matin à 8h par exemple pour aller bosser, ou à 6h, enfin peu importe, si on est agriculteur c'est plutôt 6, si on est à l'usine c'est plutôt 8, et puis si on est animateur radio c'est plutôt 10. À quoi ça sert les contingences horaires si la fin du monde est passée, quoi, si on n'existe plus, parce que peut-être, je vous signale qu'on n'existe plus. Donc du coup, je dis ça pour nos collègues des autres rédactions de CFM à Villefranche, à Rodez, à Caylus, à Cordes, à Montauban. Nous allons forcément un petit peu déborder aujourd'hui parce que c'est la dernière émission avant la fin du monde.
De l'année.
De l'année, avant la fin du monde de l'année.
De tous les temps.
Donc,
jusqu'à la prochaine.
Donc nous allons prendre le temps de discuter avec Olivier Schneider, le roi du cannelet. Salut Olivier.
Voilà, le meilleur sur le... Sur la place, je suis le seul d'ailleurs, voilà.
Le meilleur cannelé du marché des faiseurs singuliers.
Hein? Tout à fait, oui, on peut dire ça, oui.
Et c'est vrai que moi, depuis le début de la semaine, quand même, j'en ai mangé quelques-uns. Alors, je sais pas combien il y a de calories dans un cannelé, mais ça doit commencer.
Je ne répondrai pas.
Oui, voilà, ça doit commencer à faire lourd un petit peu. Et puis, on accueille aussi Jackie Courmont de la bière au cal. Salut Jackie.
Oui, bonsoir.
Merci d'être là à nouveau dans cette émission, parce que tu es déjà passé toi aussi. On a déjà parlé un petit peu de la bière au cal, cette bière que tu brasses à la française.
Oui, tout à fait.
En Tarn-et-Garonne.
Ça fait maintenant 15 ans.
Ouais.
Et j'ai appris d'ailleurs que les cannelés sont aussi de la française.
C'est vrai, tu es
tout
la française.
Oui.
On dit ça, la française.
Zin.
Oui, je ne sais pas exactement parce que c'est depuis peu de temps que
lui,
je suis zin, ici.
Zin.
Oui.
Lui, les voilà, zinzins. Tu es la française zin. Lui, les zinzins.
Voilà. Bien, merci.
Ah non, mais je me suis dit, tiens, je vais vous réunir tous les deux parce que finalement, cannelé, bière, est-ce que ça va pas bien ensemble?
Je réponds en premier, d'accord. Non, le cannelé, ça va à peu près avec tout, en fin de compte. Ça n'a pas vraiment besoin de motivation.
Oui.
Tu l'as d'ailleurs démontré cette semaine.
C'est vrai.
À toute heure, à tout instant. Tu es passé devant mon stand et tu as voulu vérifier si c'était toujours aussi bon.
Il y a même plein de fois où tu n'étais pas là, où je t'en ai volé.
Carrément, donc d'accord.
Donc il n'y a pas besoin d'entraînement, ça vient naturellement le cannelé.
Voilà.
Jackie.
Pour l'avoir juste à côté de soi.
Et moi je me suis présenté là avec ma bière noire, qui est sûrement la seule bière qui va pouvoir vous effacer tout ce que vous venez de déguster. C'est une bière faite avec des maltes torréfiées, donc on se rapproche des chocolats café. Elle est avec très peu de sucre résiduel, donc vous allez voir, c'est une bière qui est très très digestive.
Ah, ben alors ça c'est exactement ce qu'il nous faut.
C'est ce qu'il nous faut, là, pour dégraisser.
Olivier Schneider, qu'est-ce qui t'a amené, toi, sur le terrain des cannelés? Alors on se dit tu, c'est peut-être un petit peu bizarre, d'habitude je dis vous à tous les invités, mais comme on se côtoie, ça fait presque une semaine maintenant, ça fait une semaine qu'on se côtoie ici, donc on a fini par sympathiser, par boire des coups ensemble, par manger des tonnes de cannelés, voilà, on se dit tu.
Alors très simplement, mon frère est bordelais, donc il m'a fait découvrir ça, puis après j'ai acheté des moules à titre personnel, je veux dire privé, et j'ai commencé simplement à fabriquer moi-même pour, quand je suis invité, arriver avec quelque chose dans les mains. Et un jour, j'en avais produit un peu trop pour une occasion, et je suis arrivé chez des gens, j'en ai posé à peu près 150 sur la table, ils étaient 6, et ils les ont mangés en 20 minutes. Je me suis donc...
J'avais faim.
Voilà. Non, c'était à la fin d'un repas. Et dans le sud-ouest, un repas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de gagner sa vie avec ça, si on arrivait à
les faire correctement.
La faire goûter, voilà.
Et alors, comment tu promeus ça, justement? Tu vois, Nathalie, on dit promeut pour promouvoir.
Tout simplement en demandant aux gens de bien vouloir les essayer, de les goûter simplement. Voilà.
C'est-à-dire que c'est le bouche à oreille finalement qui fait ta réussite ou quoi?
Finalement, c'est pas le bouche à oreille, c'est la bouche tout court, quoi. Vous passez devant le stand, je vous le propose.
Oui, mais
vous le goûtez.
Il faut que tu aies un stand. Bon, ici, tu as un stand de faiseurs singuliers.
Je travaille sur les marchés. Le marché de Moissac, le marché de Castelsarrasin, celui de la place à Lac et Place Nationale, où je fais aussi le marché le samedi et souvent le dimanche.
D'accord. Alors, des talents cachés, qu'on n'aura pas tout le temps d'évoquer comme on pourrait le voir, parce qu'on pourrait le vouloir, parce que même si c'est la fin du monde, c'est quand même une émission de radio, donc ça a un début et une fin.
Et bien, la fin du monde aussi. Hein,
mais Olivier Schneider, il est aussi illustrateur et il a fait aussi par le passé des recettes de cuisine.
Oui, en fin de compte, c'était un peu par dérision. Suite à mon divorce, il y a des gens qui se sont approchés de moi quand ils ont su que j'allais divorcer et qui m'ont demandé...
Comment tu es ma femme ?
Non, tout plus simplement, c'est comment tu as fait pour divorcer ? Et moi, j'ai répondu, un avocat, un juge, et puis voilà, quoi, ça va tout simplement. Et en fin de compte, je répondais complètement à côté de la question. Ce qu'ils voulaient savoir, c'est comment quitter Bobonne sans retourner chez maman. Pour eux, le problème, c'était comment faire la cuisine au jour le jour, apprendre à... Parce que sans doute, ils n'y étaient jamais rentrés dans cette pièce qui était un mystère pour eux. Et donc, j'ai travaillé, en fin de compte, pour des journaux où j'ai fait de très simples recettes. Et pour des gens qui n'ont jamais approché ce milieu-là, quoi. Donc, ce sont des recettes de quiche, ce sont des recettes pour préparer une salade, ce sont des recettes pour utiliser une poêle, une casserole.
Ce sont des recettes de célibataire. Tu veux bien, dans quelques petites minutes, de nous en faire une ?
Oui, je pourrais tenter de faire quelque chose.
Alors, dans quelques instants. Mais d'accord. Pour le moment, je reviens vers Jackie Courmont. Là, au Cal, aujourd'hui, quand on voit ton stand ici au marché des faiseurs singuliers, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 variétés.
5. C'est toute une histoire. En fait, j'ai démarré la brasserie avec l'idée que ce serait la brasserie d'une bière. Dès l'année suivante, il y avait 2 bières. C'était la noire et la blanche. La noire que vous dégustez là maintenant. Puis, il a fallu la blonde au bout de 3-4 ans. Ensuite, j'ai fait une bière de Noël rouge, qui est en fait une bière ambrée. Et puis, il y a 2 ans, même l'année dernière, ma fille a ouvert un salon de thé à Toulouse et j'ai fait une bière au thé.
Ah oui, c'est-à-dire que les petites vieilles, elles viennent le samedi après-midi, un petit gâteau et hop, une bière au thé. Quoi. Elles sortent de là, elles sont bourrées.
Il y a de ça, c'est vrai, il y a de ça, mais c'est aussi un alibi pour ces messieurs pour commander une bière puisqu'elle est au thé.
D'accord. Qu'est-ce qui colore la bière ?
Alors, ce qui colore la bière, c'est essentiellement le malt. Les malts qui sont séchés à 80 degrés n'ont aucune couleur. À 125 degrés, on a une caramélisation, donc on commence à avoir une couleur rousse, ambrée. Et là, vous avez une bière avec des malts chocolat qui sont chauffés, même presque torréfiés à 180 degrés.
Et ça, ta brasserie, on peut la visiter, elle est à la française, c'est...
Absolument, ouais. Oui. La brasserie, c'est un hangar au milieu des bois. Et bon, donc on voit des chevreuils là autour, mais on est très tranquille.
C'est
les portes sont
ouvertes. C'est un truc en cuivre, pas du tout. Comment c'est
non,
fait
c'est de l'inox.
C'est de l'inox, ouais.
Oui, on reste. Il n'y a non, pas
je
de.
Pas. Je vois des trucs en cuivre. Alors je me dis, c'est juste pour le fun, comme ça, ou ça.
Non, c'est essentiellement. Il existe encore des brasseries avec des cuves en cuivre. J'ai repris des cuves anglaises, mais elles sont déjà en inox.
Est-ce que tu peux mettre un petit peu un jingle là, parce que je vais croquer dans un cannelé, s'il te plaît. You need a real man. C'est désolé, on déborde vachement, hein. Ouais, c'est désolé. Maintenant, on a fait le tour, non, Pascal? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cette dernière émission avant la fin du monde ?
Non, je crois qu'on finit bien à la fois la saison, le siècle, le monde. Tout était parfait. Mmh. Hein ? Finir avec des petits cannelés. Il n'y a que le thé des mémères. Bon,
pouf. Mais moi, non, alors.
Il est bon, c'était.
Lui, ouais. Lui tant qu'il n'y a pas de l'alcool, bon. Si tu veux, à bout d'un moment.
Il faut se défendre.
Mais elle n'a pas de micro, la pauvre.
Il y a de la cannelle, non, dans cette thé.
Ouais. Alors on y mettra un petit peu de vodka.
Il y a de la cannelle. Il y a de la cannelle. Il y a de la cannelle.
Dans celui-ci, non.
Ah bon, vraiment, j'aurais
moi
cru.
Moi aussi, mais ça me l'air.
Il y a pas de cannelle.
Qu'est-ce que c'est alors ?
Cerisa, amandin, genièvre.
Genièvre.
Et gingembre.
Ah, gingembre. C'est pour ça, en fait, il y avait un piège dans le thé. Tu vois,
enfin,
il y avait un piège.
Je remarque quand même qu'elle sirote la bière et qu'elle a laissé le thé.
Tu peux faire les deux. Franchement, tu peux passer de l'un à l'autre.
Bravo.
Olivier Schneider.
Oui.
Une recette.
Alors une recette, j'en ai pas comme ça en tête. Je pourrais raconter le quiche, mais ce serait assez assez banal. Mais on m'avait demandé de préparer un texte sur une histoire de Noël, un repas ou quelque chose comme ça. Et j'en avais fait un il y a quelques années maintenant. J'étais en Chine, du côté de Pékin. Et c'était pour Noël. J'étais invité par une famille de Chinois, Chine populaire, voilà. Et pour honorer de ma présence, ils avaient préparé un repas avec une spécialité chinoise qui s'appelle l'œuf de 100 ans.
Alors, ça sent bon déjà, l'œuf de 100 ans.
L'œuf de 100 ans, oui, ça porte déjà un nom qui est assez curieux. Et en fin de compte, ça se présente. Le principe de l'œuf de 100 ans, c'est un œuf qu'on va enterrer dans la terre, dans de la cendre de thé, dans de l'argile, et qu'on va non pas laisser 100 ans, mais à peu près une centaine de jours, 10 jours, du moins ça dépend.
Il le trempe dans un lait de chaud aussi.
Oui, oui, la chaud, j'oublie, le lait de chaud. Oui. Alors, à la sortie, la coquille est brune, légèrement craquelée, comme si elle était magma volcanique, et ça se présente le jaune est plutôt vert, genre cuivré.
Ouais, c'est vert, oui. Ouais, vert pomme.
Oui, et le blanc est plutôt ambre. Alors, ça arrive sur la table et ça a une odeur assez terrible.
C'est pestilentiel.
Pour un occidental, je pense. Hein, c'est vraiment quelque chose qui doit avoir du goût, mais faut s'y faire, quoi.
Comme dit un copain, ça a une odeur de reviens-y pas.
Oui, voilà. En fin de compte, j'avais l'impression d'avaler des tablettes qu'on met dans les piscines pour les filtrer.
Oh là 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 là.
Et au final, j'avais plus peur, non pas de devenir ni jaune ni vert, mais plutôt bleu lagon, quoi. C'est vraiment quelque chose. Et évidemment, mon éducation m'obligeait à faire honneur. Et il m'en avait mis véritablement une assiette entière. Et là, le temps paraît long, quoi. Et comme, vu le nombre de Chinois et leur nombre croissant et qu'ils adorent ça, j'allais survivre à ce truc-là, il va falloir que je m'en souvienne en plus. Parce que c'est ça se mange.
Il va falloir que tu en reprennes.
C'est un grand moment de solitude, l'œuf de 100 ans.
Oui, le pire, c'est de savoir qu'on va y survivre.
Mais c'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça.
Attention.
Si tu manges ça les yeux fermés, sans voir ce que c'est, sans voir d'où ça vient, etc., c'est comme si tu manges une huître.
C'est iodé. Quand tu manges une huître qu'à ce goût-là, ça va être difficile par la suite, quoi.
Elle est mazoutée, d'accord.
Et puis, je sais pas quelle mazoute, hein.
Pour finir, je reviens vers Jacques Courmont. La bière au cal aujourd'hui, comment elle est distribuée? Où est-ce qu'on la trouve? Dans quelques bars, dans quelques brasseries?
Non, très peu de bars, plutôt des restaurants. Ouais. Et essentiellement du commerce de proximité dans environ 8 à 10 départements.
D'accord.
Par rapport au démarrage de la brasserie, je me suis recentré sur une notion de produit local.
Ah ben, c'est le nom de la bière.
Ah bah bravo.
Absolument, le choix était au départ le bon.
Jacques Courmont, le roi du marketing.
Ah oui, là, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais.
Je te le dis, mon gars. Bah, écoutez, c'était assez incroyable ce qu'on a dû déguster aujourd'hui. J'ai plus faim.
Ah ben moi non plus, il vaut mieux que ça soit pas comme ça toute chaque semaine.
Non, mais c'était le.
Mais c'était la dernière alors.
C'était
là.
Le qu'est-ce qu'on déguste de la fin du monde.
On peut crever donc, tranquille.
Donc on a eu du vin, on a eu de la bière, on a eu des gâteaux, on a eu du thé, on a eu du foie gras, on a eu de la saucisse, on a eu du saucisson, on a eu des cannelés,
des tartines d'ail,
du sirop de basilic.
C'est dingue.
C'était complètement dingue. C'était dingue. Hein, ils sont fous, hein. C'est n'importe quoi.
C'est fou.
Tout mélangé, ouais, c'est vrai.
C'était qu'est-ce qu'on déguste. Et on vous a encore une fois démontré que c'est pas toujours facile de faire le métier qu'on fait.
Ah, qu'est-ce que c'est vrai.
Non, c'est pas facile.
Tu parles de toi, là.
C'est une émission de.
Oh, puis là, maintenant.
C'est une émission de fou.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et en plus, on écoute du jazz.
De toute façon, c'était la dernière de l'éternité, donc.
Hein. Bah oui.
On aura gagné le paradis.
Enfin, bon, allez, on vous emmerde tous. Salut et à bientôt.
Je vous prédis, fin janvier, une émission aux Ampélopholies dans le Cabardès, où nous sommes invités pour un week-end truffe,
vin
et gastronomie.
Ouais.
Ça va être l'orgie encore ça.
Bah écoutez, faites un régime d'ici là parce que ça va être quelque chose. Merci. Qu'est-ce que tu dis Nathalie?
Elle veut nous accompagner.
Non, oui. On ne peut pas prendre de domestique.
Il ne faut pas des accompagnateurs.
Et voilà. Et voilà. Merci en tout cas Nathalie Patard, merci Juan Kervin, merci Jackie Courmont, Olivier Schneider, Séverine Boyer, Jean-Claude Guéral, Sabine Nérière, voilà tous ceux qui ont été invités dans cette émission, y compris Pascal Bovny, pas facile, bah oui mais Magali t'étais pas là, t'étais coincée
dans l'embouteillage. Avec Magali elle est là-bas, voilà. La voilà, elle est arrivée.
Merci à Aurélien qui a assuré la partie technique de cette émission, aux faiseurs singuliers qui font un boulot formidable. Venez les voir, vous avez jusqu'à 22h ce soir parce que c'est nocturne et que pour le coup, eh ben, y a les rockers de chez Carton Rouge qui vont faire du rock and roll dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'on est là jusqu'à dimanche et que dimanche à 18h, Juan Kervin, il a dit, si les faiseurs singuliers, ils font pas tout le ménage comme il faut, attention, ça va péter, mon gars. Je vais te vaporiser ça façon puzzle. Non, c'est pas ça que t'as dit. Merci, Pascal.
Merci non, à tous.
C'est façon puzzle.
Façon puzzle. Merci, Christophe.
Avec plaisir.
À bientôt. Ciao, ciao.
Merci beaucoup.
Ça, c'était bien, hein. C'était parfait.
Ouais.
Et tu devais pas te mettre nu.
Il y a des comptes à faire.